Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Marc, au chapitre 5. À partir du verset 21. Marc 5, 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Merci.
Merci, Raphaël. Puissance incomparable, compassion incomparable, un miracle dans un miracle. Et j'aimerais exposer ces versets que nous avons lus en 5 points. D'abord, faire une introduction et ensuite regarder la demande du chef Jaïrus. Deuxièmement, regarder la guérison de cette femme. Troisièmement, la résurrection de la fille de Jaïrus et ensuite faire une conclusion. Commençons par l'introduction. Je suis un gars qui aime les plans d'action. J'ai été élevé comme ça. J'ai un patron à Grand Rapids. Puis lorsque nous faisons des réunions pour planifier, pour faire des idées pour l'avenir, après une réunion, il va toujours s'attarder à peu près 20 minutes. Puis il va dire, « Laissez-nous prendre un plan d'action. D'ici 3 jours, je veux un plan d'action. C'est toi qui vas le faire. » Alors je passe beaucoup d'heures dans un mois à faire des plans d'action pour mon patron. Je me demande qu'est-ce que j'aurais fait si l'archange Gabriel était venu me voir si j'étais déjà né pour le 2000 ans. Puis s'il avait dit, le Dieu de l'univers va envoyer son fils sur la terre. Doug, fais un plan d'action pour faire connaître qui il est, puis sa puissance, puis sa grandeur et sa personne. Quelle sorte de plan d'action que j'aurais fait? Il me semble que j'aurais fait un spectacle de lumière dans le ciel. Mais oui, il y a une étoile dans l'Est. Je ne sais pas quelle sorte d'étoile, quelle sorte de manifestation que c'était. C'est une des questions que je vais demander au Seigneur au ciel. Mais ce n'était remarqué que par quelques mages, quelques astronomes en Perse. À Jérusalem, on ne semble pas l'avoir remarqué. Si c'était moi qui avais fait ça, il y aurait eu tout un spectacle au ciel. Puis il me semble que j'aurais eu une armée d'anges célestes brillants de lumière, assis sur des grands chevaux qui ont précédé le nouveau roi. Puis il me semble qu'il y a eu des éclairs et des tonnerres du ciel qui auraient détruit les méchantes villes comme Rome, qui dominaient et qui opprimaient le peuple de Dieu. Mais Dieu n'a pas décidé ça. On ne m'a pas consulté. C'est quoi le plan d'action de Dieu pour manifester l'identité et la puissance du Christ? Puis en effet, c'est les miracles qui ont été la méthode par laquelle Jésus s'est révélé. La révélation, la manifestation, la vérification de sa personne par sa puissance, c'est ces miracles. Et ces miracles-là ne sont presque pas des miracles où on détruit ses ennemis, où on démontre sa puissance juste par quelque chose de farfelu. Il a choisi des manifestations de puissance qui ont libéré le peuple de toutes les sortes de souffrances de la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'a pas manifesté sa puissance dans le ciel. Il a manifesté sa puissance pour aider les personnes qui étaient mal prises. Cette puissance était toujours accompagnée de miséricorde envers les peines et les souffrances des humaines. En effet, l'utilisation de sa puissance a toujours été la démonstration que Dieu a tant aimé le monde. Puis ce matin, j'aimerais qu'on comprenne que par les miracles et par ces manifestations de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on comprenne sa compassion puis son amour, on comprenne qui il est vraiment en lui. Mettons dans cette histoire que nous avons un miracle dans un miracle. Nous avons une femme et nous avons un homme. Mais quel contraste! L'homme avait une fille qui avait 12 ans. La femme était malade depuis 12 ans. L'homme était extrêmement riche. La femme était très pauvre. L'homme était un chef. La femme était tout humble. L'homme était respecté. La femme était rejetée. L'homme était honoré. La femme était honteuse. L'homme était populaire. La femme était bannie de la société. L'homme était un chef de synagogue. La femme avait été excommuniée. L'homme élevé en dignité s'est abaissé devant le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme si basse, si humble, a été élevée par Jésus. Quel contraste dans ces deux miracles. Tournons maintenant à la demande de ce chef de synagogue. D'abord, le passage nous le dit, Jairus était chef à la synagogue. Maintenant, il s'agit, je crois, ce qu'on appellerait chez nous un diacre, ou peut-être un syndic ou quelque chose comme cela. Ce n'était pas les personnes qui enseignaient dans la synagogue, mais c'est les personnes qui étaient responsables des lieux et qui invitaient les prédicateurs invités. À cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement des enseignants attachés aux synagogues, mais plutôt on faisait une cellule de rabbins qui visitaient notre synagogue. Donc, il avait des grandes responsabilités dans la synagogue. Et probablement à Capernaum, si vous suivez Matthieu et Marc, vous verrez que Jésus a tôt déménagé de Nazareth à Capernaum, sur les bords du lac de Galilée, tôt dans son ministère. Et c'est là qu'il était chef de synagogue. Et il avait été témoin donc de plusieurs guérisons. Beaucoup de guérisons de Jésus ont été faites à Capernaum. Et son grand besoin l'a poussé vers Jésus. Sa fille était très malade, mourante. Et il va voir Jésus. Il exerçait une foi vraie envers le Christ. Il faut comprendre que pour qu'il fasse qu'est-ce qu'il a fait. Jésus avait été rejeté déjà tôt dans son ministère par les leaders religieux. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ceux qui étaient en autorité spirituelle chez les Juifs, l'avaient rejeté. Puis voici cette chef de synagogue dans son grand besoin qui tourne vers Jésus. Donc c'est un acte de foi réel. Puis non seulement cela, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Écoutez, chers amis, un chef de synagogue ne faisait pas ça. Puis il l'a fait. Il y a, je crois, 5 mots qui décrivent notre maître dans ces 2 histoires. D'abord, il était accessible. Deuxièmement, il était disponible. Troisièmement, il était interruptible. Tous des mots dans le dictionnaire, je vous l'assure. Quatrièmement, il était indomptable. Et cinquièmement, imperturbable. Mon épouse m'a demandé, pour les quelques semaines, es-tu capable de dire ce mot-là? J'ai dit probablement que non. D'abord, Jésus ici est accessible. As-tu remarqué qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Jairus ne s'est pas senti obligé d'aller voir ses disciples. Et on vit au Québec. Jeune homme de 12 ans, j'ai déménagé à Sorel avec ma famille, puis je me souviens d'avoir été exposé pour la première fois de ma vie dans une école très, très catholique. On était enseigné par des frères, puis on nous disait régulièrement à Jésus par Marie. On nous expliquait que Jésus est un peu dangereux, puis on n'ose pas s'approcher directement de lui, puis il faut passer par Marie, sa mère, et voilà comment on nous enseignait. Jairus ici passe directement Jésus. Jésus est accessible, puis il n'est pas caché en arrière de garde dans un palais. Okay? Essaye cet après-midi à Québec, dans la ville de Québec, de s'approcher de William et Kate. Vous allez voir qu'il y a des gardes autour. Hein? Jésus n'avait pas de garde autour, accessible. Il n'était pas dans un temple en arrière des portes en or. Il était dans une foule de gens bien ordinaires et dans un des endroits bien ordinaires. Chers amis, Jésus est accessible. Quelle grande vérité! Quelle grande vérité! Deuxièmement, ici, Jésus est disponible. Il s'est donné. Cet grand homme, ce grand rabbin, ce grand enseignant, il avait du temps. Il était disponible. Il a donné son temps, son énergie, son effort et s'est rendu disponible même s'il était déjà bien occupé avec la foule. Écoute bien là. Jésus était en train de faire un sermon à une grande foule. Puis malgré cela, il prend le temps pour cet homme qui est dans le besoin. Les besoins des individus sont pour le Seigneur Jésus-Christ aussi importants que les besoins d'une foule. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, dans mes prières, j'ai l'impression de déranger le Dieu de l'univers. J'ai l'impression qu'il doit être bien occupé, mais il est disponible. Matthieu 12 cite le prophète Isaïe dans un verset que j'aime beaucoup. « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. » Ce sont deux symboles qui nous sont un peu étranges ici. Les roseaux, c'est une espèce de branche, une espèce d'herbe qui poussait dans les rivières. Et ces roseaux-là étaient utilisés pour construire des bateaux et pour faire des plumes et pour toutes sortes de choses. Mais un roseau qui était cassé n'avait pas d'utilité. On l'a jeté. Hier, j'étais en train de mettre des armoires dans ma remise que je prépare pour aller me coucher quand ma femme va me mettre dehors. Et à un moment donné, il y a un clou. J'étais en train de planter un clou, puis ça a plié. Je l'ai jeté. Plus utile. Un roseau cassé, symbole d'un homme dont la vie est cassée, qui vit dans des blessures et des problèmes énormes. Puis devant des roseaux cassés, notre Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas rejeté, ne l'a pas mis au rebut. Puis l'aluminium qui fume, les lampes, avant l'électricité, les lames qui avaient d'huile d'olive ou d'autres sortes d'huile, puis il y avait une mèche. Puis quand la mèche commence à boucaner trop, mais on arrête, on éteint le feu. On coupe un peu la mèche pour enlever le noir. Vous l'avez peut-être déjà fait. Chers amis, Jésus n'éteint pas la lumière qui fume. Encore une fois, symbole de vie, rempli de difficultés, rempli, ça ne marche pas. Notre Seigneur Jésus qui rebâtait des vies, il ne rejette pas des gens qui ont des vies brisées. Le cœur de Jairus ici était brisé. Sa fille qu'il aimait, fille unique, nous dit le passage, il a pris du temps pour lui, puis il a satisfait son besoin. Tournons maintenant à la guérison de cette femme. Jésus est interruptible. Ça veut dire quoi ça? Qu'on peut l'interrompre. Si vous travaillez avec moi, vous savez que je n'aime pas être interrompu quand je suis en train de me concentrer sur quelque chose. Hein? Je n'aime pas être interrompu. Jésus ici peut être interrompu. D'ailleurs, il avait déjà interrompu son ministère public envers cette foule, son enseignement, quand Jairus est venu le voir. Puis là, il quitte la foule, puis s'en va chez Jairus. Sûrement un voyage de quelques kilomètres. Puis là, il est interrompu encore une fois. Il se permet d'être interrompu encore une fois. Maintenant, s'il est en route pour accomplir une œuvre noble, il se permet encore une interruption. Cette femme, plusieurs points sur cette femme. D'abord, elle avait un problème médical. 12 années de perte de sang, menstruation continuelle. Il avait résulté sans doute dans l'anémie, la faiblesse puis un niveau d'énergie extrêmement bas. Ça ne dure pas facile. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de tonique, puis il n'y avait pas de fil de fer. Puis sans doute, elle vivait une santé très, très difficile. Cette femme avait sans doute un problème psychologique. Elle était accablée par le découragement. 12 ans comme ça. Sa femme avait un problème social. Écoute bien, son mariage avait certainement été affecté. Sans doute, elle ne pouvait pas porter des enfants. Elle n'était pas la bienvenue dans les maisons de gens bien, puis on va revenir tantôt pour expliquer pourquoi. Cette femme avait un problème spirituel. Parce qu'elle était impure cérémoniellement. Si vous lisez dans les 5 premiers livres de la Bible, particulièrement Lévitique, vous verrez qu'une femme, suite à ses menstruations, était impure cérémoniellement pendant 7 jours. Puis à la fin des 7 jours, il fallait qu'elle offre un sacrifice pour être purifiée. Et pendant ces 7 jours-là, on ne pouvait pas le toucher, puis on ne pouvait pas aller dans le temple, ni le tabernacle, on ne pouvait pas entendre Jésus dans la synagogue. Elle était impure, à l'écart. Pourquoi cela? Certains interprètes modernes vont montrer que l'Ancien Testament est misogyne, puis on méprise les femmes. Puis non, je crois que, sans tout comprendre, on peut indiquer 2 choses. D'abord, il y avait des problèmes, je pense, à cette époque-là, où on ne comprenait pas la transmission de maladies et tout cela. Et peut-être une protection pour la femme dans sa santé. Et deuxièmement, je crois que Dieu, dans la partie la plus intime de l'être humain, voulait montrer qu'on était pécheur. Menstruation tous les mois, 7 jours par mois pendant lesquels elle est impure. Et ça lui rappelle du fait qu'elle est pécheur. Et il y a ceux qui veulent dire que la Bible est misogyne, puis les femmes s'emmaigrent un peu par cela. J'aimerais vous dire que Dieu a enseigné la même leçon aux hommes. Puis cette leçon-là, il l'a enseignée par la circoncision. Puis je vous laisse deviner lequel est pire. Bon. Donc, elle était impure cérémoniellement, puis c'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'était pas bienvenue dans les maisons des gens de bien. Elle était continuellement, pas 7 jours par mois, mais continuellement pendant 2 ans impure. Depuis 12 ans, elle n'avait pas entré dans la synagogue ou le temple. Elle devait offrir un sacrifice pour être purifiée à tous les 7 jours. Puis sa condition lui rappelait continuellement qu'elle était pécheresse. Cette femme avait un problème financier. Elle avait été ruinée, nous dit. C'est intéressant que Marc nous dit ça, Luc ne le dit pas. Parce que ce passage est dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Luc, c'est quoi son métier? Il protège un peu les médecins. Il n'en parle pas. Hein? Mais Marc nous dit clairement que cette femme avait été ruinée par des médecins, qui n'étaient que des charlatans à l'époque. Savez-vous, dans le Talmud, qui a été écrit peut-être une centaine ou 150 ans après la mort de Jésus, mais qui quand même relate comment que les choses se faisaient à cette époque-là. Dans la Talmud, que j'ai dû étudier voilà bien des années, puis c'est trois gros volumes, là, c'est pas facile. Dans le Talmud, on nous raconte qu'est-ce que les médecins pouvaient faire pour une femme comme cela. D'abord, il fallait qu'elle mette un œuf d'autruche dans un sac fait en carton pendant l'hiver. Et un œuf d'autruche dans un sac fait en lin pendant l'été. Puis il fallait qu'elle boive du vin avec la lune ou avec certaines fleurs ou avec des oignons. Vous savez, je ne bois pas de vin, je ne suis pas un expert, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà bu du vin avec des oignons. Alors voilà les solutions qu'on proposait à cette pauvre femme. Puis on lui chargeait cher, puis on l'avait ruiné avec cela. Des charlatans. Cette femme était gênée, puis embarrassée. Puis elle avait subi le rejet depuis des années, mais elle exerçait une grande foi envers Jésus. Puis elle voulait saisir l'une des glandes sur les bords de son manteau. Vous savez que les Juifs, les hommes avaient sur le bord de leur manteau des petites glandes. Puis on nous dit que les pharisiens en mettaient des gros, hein, pour montrer qu'ils étaient bien spirituels. Jésus sans doute portait un manteau bien ordinaire. Puis elle voulait simplement saisir cela. Puis elle croyait que si elle pouvait saisir cela, qu'elle serait guérie. Elle a fait cela, puis elle a été guérie immédiatement. Jésus est indomptable ici. Il a pris en charge la situation. Notez le mot fort « immédiatement » qui revient 4 ou 5 fois dans le passage ici. Immédiatement, immédiatement, immédiatement. C'est un mot typique de Marc. J'aimerais vous dire quelque chose sur les guérisons de Jésus. Et concernant les guérisons à travers tout le Nouveau Testament, puis dans l'Ancien Testament aussi, ce sont des guérisons immédiates. Hein? Je ne sais pas s'il y en a ici qui se souviennent de Georges Béran, certains de vous aussi. C'est un privilège de connaître cet homme-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai demeuré chez lui les premières nuits que j'ai passées au Québec à Trois-Rivières en 1967. J'ai resté chez M. et Mme Béran ici, la deuxième maison, où Mme Potier demeure maintenant. C'est lui qui avait construit cette maison-là. Il était diacre ici dans l'Assemblée quand je suis arrivé. Je me souviens que Georges est allé dans une de ses réunions de guérison pour les quelques années là, avant qu'il meure, parce qu'il était curieux, puis il est allé avec une de ses amies qui croyait beaucoup la guérison. Puis il m'a conté que son ami, qui n'avait pas de dents, il n'y avait pas de dentier non plus, là. est allé en avant dans cette réunion de guérison ici à Trois-Rivières pour recevoir des dents. On lui avait promis qu'il s'est allé en avant, qu'il allait recevoir des dents. Puis le gars est allé en avant, puis il a chanté « Alléluia, j'ai des dents ». Puis il est revenu en arrière. Puis il faut connaître George. George lui a dit « Ouvre ta bouche, je voulais voir les dents ». Le gars ouvre sa bouche. Pas de dents. Pas de dents. Puis là, le gars l'expliquait, mais il dit, oui, mais je les ai reçus par la foi, mes dents. Mais si je continue pendant une certaine période de temps à vraiment exercer la foi, mais je vais les recevoir physiquement. Puis si ça vous semble drôle, réalisez que ça fait partie de certaines doctrines, de certaines guérisons. Ces guérisons potentielles, ces guérisons spirituelles, dont l'accomplissement final dépendra du niveau de foi. Jésus a dit que si tu as la foi comme une semence de l'éveil qui est la plus petite des semences, qu'il faut quasiment avoir une loupe pour le voir. Non, les guérisons de Jésus sont immédiates. Moi, je ne veux pas rire du monde qui croit différemment de moi. Le Seigneur peut guérir encore aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on exerce le discernement et qu'on réalise que quand Jésus guérit, c'est immédiatement, ce n'est pas potentiel. Jésus prend en charge la situation, on remarque le mot immédiatement, mais remarquez bien, ce n'est pas une force impersonnelle ici. J'écoute certaines personnes parler, puis je regarde certains programmes de télévision, j'ai l'impression que Jésus, c'est une force. Ce n'est pas une force impersonnelle. Jésus immédiatement recherche cette femme. Il lui dit, « Quelqu'un m'a touché, c'est qui? » Pourquoi qu'il a fait ça? Il a posé la question, non pas parce qu'il ne savait pas la réponse, mais il voulait forcer à cette femme de faire une confession publique. Et ici, nous apprenons des choses sur la personne de Dieu qui sont importantes. D'abord, il est un Dieu personnel, il n'est pas une force. Star Wars, que la force soit avec toi. Luke, utilise la force. Bon, j'ai trouvé ça bien fun de Star Wars. Ça m'arrive de temps en temps quand je ne suis pas capable de penser. Ça passe souvent à la télévision. Je ne dis pas que c'est mal. Mais j'aimerais vous dire que Star Wars a contribué, je crois, à une compréhension du surnaturel qui est mystique, qui est impersonnel. La force. Dieu n'est pas la force. Il est une personne. Hein? Il est une personne. Et Dieu n'est pas passif. Il n'est pas le Dieu des déistes. Vous savez, c'est qui les déistes? Isaac Newton, Benjamin Franklin, ces grands hommes de cette époque-là, qui étaient chrétiens en certaines formes. Certains parmi eux, je pense qu'on va les retrouver au ciel. Mais leur Dieu était un Dieu qui avait créé l'univers, puis qui a pris du recul, et maintenant il permet à l'univers de se dérouler sans qu'il intervienne. Et Dieu est loin de nous. Ça, c'est les déistes. Les déistes ont existé parce qu'ils n'avaient pas d'autre manière d'expliquer l'univers, donc ils ont permis que Dieu ait créé l'univers. Darwin et l'évolution ont enlevé cet obstacle-là. Là, après ça, ils ont pu devenir des athées, vous comprenez, là? Mais les déistes étaient des athées partiels. Dieu a créé l'univers, mais là il n'est plus là, là. Hein? Dieu n'intervient plus de miracles, pas d'intervention de la part de Dieu. Dieu n'est pas une déiste. Notre Dieu n'est pas le Dieu des déistes. Il n'est pas détaché. Il n'est pas impersonnel. Il est personnellement engagé envers nous. Hein? Et cela met fin à la magie et la superstition. Jésus a attiré cette femme vers lui. Une bonne théologienne le dirait ceci, il a poursuivi. Il a poursuivi cette femme. En passant, votre engagement envers Jésus-Christ doit être un engagement public. Jamais personne, Jésus n'a pas accepté que quelqu'un croit en privé. Jésus veut qu'on dise publiquement qui nous sommes. Remarquez bien ici que Jésus a récompensé sa foi. Il a guéri, il a restauré la société, il a sauvé. Il monte un accent, oui, excuse-moi. Il appelle sa fille, ma fille. Oh, que c'est beau ça, ma fille. Ça faisait longtemps qu'il n'y ait pas un homme qui avait dit ça à cette femme-là. Ma fille. Il la renvoie avec sa paix. Il soulage sa souffrance. Excuse une excursion dans le grec. Le mot souffrance ici, c'est le mot mastigos. Qui le mot qui est utilisé pour être fouetté, châtié. C'est le mot qui est utilisé pour décrire ce qu'on a fait à notre Seigneur Jésus-Christ avant de le crucifier. Où est-ce qu'on prenait ces fouettes avec plusieurs cordes, avec des morceaux de fer puis d'argile tissés dans les cordes, puis on frappait avec cela, puis ça arrachait la chair, puis notre dos devenait une masse de sang rouge, sans peau. Puis c'est le mot qui est utilisé ici pour décrire ce que cette femme a souffert. Puis Jésus l'a soulagé. Tournons maintenant à la résurrection de la fille. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle J.B. Hardy, un Canadien en passant, qui a écrit un livre qui s'appelle Countdown, Compte à rebours, c'est ça? Compte à rebours. Ça n'a jamais été traduit autant que je sache. Dans son livre d'apologétique, il pose deux questions, qui pour lui sont les deux questions les plus importantes dans la vie. Est-ce que quelqu'un a conquis la mort? Est-ce que la mort a été conquise par quelqu'un? Chers amis, c'est une question importante. Pour vous qui êtes plus jeunes, peut-être que vous pensez à ça, pensez pas à ça. Moi, j'y pense, à la mort. Hein? Ça va m'arriver un de ces jours. Peut-être bientôt, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a conquis la mort? Puis, la deuxième question pour lui, c'est est-ce que quelqu'un a conquis la mort pour moi? Pour moi, est-ce que quelqu'un a conquis la mort? Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution à la mort pour moi? Il pose ces questions-là, puis il trouve une réponse. il trouve sa réponse en Jésus. Maintenant, le temps passé avec la femme malade a été mortel pour la fille de Jairus. Jésus, qui s'en allait là, arrête pour cette autre femme qui est malade, puis pendant ce temps-là, Jairus devait être là, sur le bord de la foule, puis il attendait Jésus, puis il devait être impatient. Hein? Puis là, cette fille-là meurt. Puis là, on vient de voir, puis on dit, ne dérangez plus le rabbin. Dérange-les plus, là, il est mort, là, c'est trop tard, là. Mais oui, on sait qu'on a vu faire plusieurs miracles, là, mais même lui, même Jésus, ne peut pas ressusciter cette fille des morts. C'est évident. C'est évident. Et Jésus est imperturbable, ce qui veut dire placide, calme. Puis répondre, puis le temps des verbes est très difficile à traduire en français. Mais si on veut traduire comme faux, même si des fois ce n'est pas le meilleur français, cessez d'avoir peur, continuez de croire, il dit. Arrêtez d'avoir peur. Continuez et persévérez dans la foi. Et c'est le message que le Seigneur voulait dire dans les quelques-unes ici aujourd'hui. Remplacez votre peur par votre foi. Jésus rentre maintenant dans le salon où la corde, où la foule est là. Et il faut comprendre, peut-être des funérailles à l'époque de Jésus. Vous savez que chez les Juifs et chez les musulmans, les funérailles doivent être la journée même ou peut-être le lendemain matin. Mais c'est encore une fois une question sanitaire. On sait que les corps des êtres humains peuvent être dangereux à court terme, surtout dans une chaleur comme là-bas, et pas d'embaumage qu'on connaît aujourd'hui. Alors, Jésus rentre dans le salon. Maintenant, à cette époque-là, il faut comprendre qu'il y avait trois éléments dans une funéraille qui étaient essentiels. D'abord, il fallait déchirer ses vêtements. Ça peut sembler drôle, mais vous voyez souvent à travers la Bible les vêtements déchirés. C'est un signe de deuil, un signe de scandale. Et dans le Talmud, il y a 39 règlements sur la façon de déchirer des vêtements. C'est du légalisme, nous autres, on ne connaît pas ça. Les autres, le légalisme, ils vivaient. Il fallait être debout pour déchirer ses vêtements. On ne pouvait pas être assis pour les déchirer, il fallait être debout. Et il fallait que la fente soit assez grande pour pouvoir rentrer le poing. Si on se dit, il y en a peut-être des juifs cheap, là, gratuits un peu, qui voulaient juste déchirer rien, qu'on ne remarque pas, pour pas ruiner notre vêtement. Non, il fallait faire une bonne fente déchirée pour qu'on puisse rentrer le poing. Puis il fallait que si on était membre de la famille, il fallait que le déchireur soit par-dessus le cœur. Et si on n'était pas parent, il fallait qu'il soit proche du cœur. Puis il fallait que pendant 30 jours après la mort, qu'on porte le vêtement, puis on pouvait le coudre un petit peu, question de modestie, mais il fallait qu'il soit évident que le vêtement ait été déchiré. Il fallait que le deuil dure 30 jours. Deuxièmement, il fallait des professionnels pour pleurer. On a engagé depuis plus qu'on avait les moyennes, puis Jairus était en moyenne, puis sans doute il y avait quelques-unes. Il fallait trouver, il y avait des femmes professionnelles qui se faisaient payer pour aller dans les salons de funérailles pour pleurer à haute voix, puis tout cela. Alors on voit Jésus qui rentre dans ce salon. Et là, il y a toutes ces madames qui sont des professionnels qui sont là, puis qui crient, puis pleurent. Puis ils ramassaient leurs larmes dans une bouteille, puis ils donnaient la bouteille à la famille pour prouver qu'ils avaient vraiment pleuré au funérail, puis ils se faisaient payer pour cela. Puis quand vous lisez dans les psaumes, Jésus ramasse nos larmes dans sa bouteille, ça fait référence à cela. Hein? Et non seulement qu'il y avait ça, mais il fallait avoir des flûtes. Claudine n'est pas ici, j'aurais aimé, elle pipe un peu, elle est partie en Suisse. Mais en Israël, tout le monde jouait une flûte. Plus ou moins bien, là, mais tout le monde jouait une flûte. Puis dans un funérail, il fallait avoir beaucoup de personnes qui jouent une flûte. Alors, le Seigneur rentre dans ce salon, du monde qui crie, du monde qui déchire leurs vêtements, du monde qui veut des flûtes dans toutes sortes de tunes désaccordantes, puis quelle confusion. Puis remarquez comment les pleurs des professionnels ont changé si rapidement en rire envers Jésus. Elle est morte. Tu penses que tu vas. Puis Jésus redéfinit la mort ici. Jésus dit, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Oh, chers amis, Jésus est en train de nous dire que la mort n'est qu'une condition temporaire. Je me souviens quand Danny est venu chez nous, il avait 5 jours. Vous savez que Danny est adopté. Puis, on voulait tellement voir des enfants. Puis, il est venu un peu soudainement, rapidement. Puis, je me souviens de ses premiers jours, ses premières nuits. On se réveillait tous les demi-heures pour checker, pour voir. Pour voir. Tu sais, on a entendu parler de ses enfants qui pouvaient mourir dans un lit. D'ailleurs, la plupart des nuits, il dormait sur moi, là, jusqu'à ce qu'il ait à peu près 6 mois, si ma mémoire est bonne. Mais quand on allait le voir, puis moi, je checkais, là, je ne voulais pas le réveiller, mais quand il respirait, je me disais, oui, il est correct. Il est correct. Parce que le sommeil est temporaire, n'est-ce pas? La mort est une séparation à long terme. Le sommeil n'est qu'une séparation à court terme. C'est temporaire. Et Jésus n'est pas en train ici d'enseigner le sommeil de l'homme, comme de l'âme, comme enseignent les témoins de Jéhovah, puis les adventistes du septième jour, en une doctrine semblable. Mais non, l'âme qui meurt est conscient. L'histoire de Lazare et d'autres évidences dans la Bible nous enseignent que lorsqu'on meurt, qu'on continue à être conscient. Mais Jésus est en train simplement de dire ici que la mort est temporaire. Et Jésus le ressuscite miraculeusement, en privé. Oh, que j'ai peur de ces faiseurs du miracle public qui attirent l'attention sur eux-mêmes souvent. Et Jésus opère son miracle, ce miracle loin de la foule incrédule. Puis il le fait dans la présence seulement de 3 de ses disciples les plus intimes. C'est la première fois dans les évangiles qu'on voit que Jésus avait parmi ses disciples ceux qu'il préparait pour être les leaders des leaders. Maintenant, vient notre conclusion. Jésus récompense la foi de cet homme. Il la récompense. Il guérit sa fille de cet homme et cette femme aussi. Il guérit sa fille. Il demande ainsi sa puissance. Il appelle petit agneau. Très intéressante cette phrase qui est en amérienne, qui est une évidence que Jésus ne parlait peut-être pas nécessairement à la foule en hébreu ou en grec, mais en araméenne, qui est une langue semblable à l'hébreu, qui était très courante dans cette région à l'époque de Jésus. Puis en araméenne, c'est une expression double. Littéralement, ça veut dire petit agneau. Petit agneau. Mais, tu sais, on a beaucoup d'expressions pour les jeunes filles qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas? On aime aussi les garçons, mais les filles, c'est spécial. C'est. Mes petites filles sont mes princesses, mes amours, je les aime beaucoup. Chez les Juifs, on les appelait des agneaux. Délicates, beaux, purs. On les tenait dans ses bras, les agneaux. Puis Jésus appelle cette fille-là, petit agneau, petit agneau. Puis il dit, lève-toi. Sa tendresse. Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ n'est pas sévère. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas méchant. Il n'est pas dangereux. Il n'est pas dur à excéder. Il est tendre dans son cœur. Devant cette jeune fille, devant son père, devant ses 3 disciples ici, il demande sa tendresse. Remarquez bien qu'il satisfait aussi son besoin pour la nourriture, ses tendres soins. La petite fille avait vécu peut-être une fièvre, ça faisait un certain temps qu'elle était malade, dans un pays chaud, elle n'avait pas bu, elle n'avait pas mangé. Et lorsqu'elle a été ressuscitée, on voit que ses parents, sans doute, qui dansent de joie. On voit ses disciples qui sont émerveillés. Puis on ne pense pas à la petite fille qui a faim. Le Seigneur Jésus-Christ y pense. Encore une fois, un signe qu'il a soin de nous. Il connaît nos besoins avant même qu'on les connaisse. Il connaît nos besoins avant même qu'on les exprime. Il va dire ça. Vous demandez des choses à votre Père Céleste, il connaît vos besoins même avant que vous les demandiez. C'est comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être comme Jairus et comme cette femme que vous avez besoin ce matin. Moi, je suis sûr qu'on est ici avec un besoin. Peut-être comme cette femme, tu sais que devant le Dieu trois fois saint, tu es impur. Même le grand prophète Ésaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur très saint, lorsqu'il a entendu les anges qui chantaient « Saint, Saint, Saint et l'Éternel », il s'est jeté face à terre, puis il a crié « Malheur à moi, malheur à moi. Je suis un homme avec des lèvres impures, puis j'habite chez un peuple de lèvres impures. » Ézéchiel, Daniel, tant d'hommes de Dieu qui ont vu le vrai Dieu puis qui se sentaient impurs. Et peut-être ce matin, comme cette femme, vous êtes impurs puis vous le savez. Mais ce matin, comme Jairus et comme cette femme, je vous invite à tourner vers la bonne personne. Quand nous sommes donc heureux comme peuple de Dieu de connaître un vrai Dieu qui est directement accessible, toujours disponible, complètement interruptible, tout à fait indomptable, puis absolument imperturbable. Quand nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui démontre sa puissance en exerçant sa ministère envers nous. Ce matin, avez-vous un besoin, puis vous avez des difficultés de tourner vers Jésus? Et je vous invite. Dans les circonstances que vous avez, écoutez bien, cette femme, ça faisait 2 ans qu'elle était malade, puis il n'y avait pas un médecin qui pouvait la guérir. Cet homme avait une fille qui était excessivement malade, puis qui est morte. Maintenant, moi, je ne vous promets pas que vous êtes guéri, puis on va vous ressusciter vos enfants. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on voit là la puissance de Jésus exercée dans la faveur de ses, pour le bien de ses enfants. Puis moi, je vous invite que si vous êtes accablé par des difficultés dans ta vie, et si surtout vous êtes conscient que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de pardon, que ce matin, vous compreniez que Jésus-Christ est accessible. En tout temps, vous n'allez pas le déranger. Vous pouvez lui adresser vos besoins, puis c'est sa joie de prendre soin de vous. Moi, je vous invite ce matin de tourner vers Jésus-Christ pour le salut et pour vos besoins. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Jésus. Merci pour la manière dont il a démontré sa puissance. Pas dans des grands exploits, pas dans des démonstrations pour détruire ses ennemis. Pas dans des démonstrations qui servaient simplement pour faire éclater sa gloire. Il s'est limité pour révéler sa puissance lorsqu'il a fait des biens aux enfants humains, aux êtres humains, aux hommes, aux femmes qui étaient mal pris. Il a pris soin. Il a pris soin d'eux, Seigneur. Merci qu'il ait été comme ça. Merci qu'il est encore comme cela. Merci qu'il est accessible. Ah Seigneur, pour celui, pour celle ce matin, qui est pris avec la réalisation qu'elle est impure, qu'elle a besoin du pardon, que ce soit aujourd'hui que cette personne-là reçoit Jésus-Christ. Et pour la personne ici qui souffre, qui a des difficultés, oh, permette qu'aujourd'hui que cette personne-là trouve la solution en tournant vers Jésus-Christ. Merci encore une fois, Seigneur, d'être le Dieu que tu es. Oh, les hommes qui se sont inventés des dieux n'ont pas inventé des dieux comme toi. C'est Michaël, le grand prophète, qui a crié, qui est un grand Dieu comme toi? Ah, Seigneur, personne n'est comme toi. Merci. Merci au beau nom de Jésus.